Alors, je vais donner la parole à Lia, juste un tout petit mot d'introduction. Voilà, je vous le disais, la poésie, cette idée de la poésie est venue dès le début du projet. Dès le début, on a fait des rubriques, des soirées sur la poésie. Mais c'est vrai que ça a pris finalement toute la place. Je pense aussi, alors parce qu'il y avait, est-ce qu'on parle du soin, de la poésie, de l'un, de l'autre, des deux, mais en fait, je pense que tu seras d'accord, mais tout ça est tellement riche en fait que, à un moment, ça vaut le coup de, je pense, de que cet endroit-là s'y consacre en fait, parce que c'est très riche et aussi c'est très rare, je trouve, à la mesure où des soignants ou pire encore des médecins qui soignent par la poésie. Bon, j'attends mes confrères, mais je toujours pas. À part ma vie. En tout cas, des lieux dédiés à ça, des lieux de réflexion sur le soin poétique, j'en connais pas d'autres à part ici. Il y en a sûrement d'autres, mais simplement, voilà, tout ça pour dire que c'est rare et du coup, je trouve ça bien qu'on décide de s'y consacrer complètement. Alors, jusqu'à maintenant, pendant ces 10 premières années, on a été beaucoup dans les concepts, dans les soirées conceptuelles. Alors des fois, on entend des discours un peu durs sur les concepts, mais nous on adore les concepts, et je trouve que ces pirouettes intellectuelles, là, c'est quand même ça aussi qui nous permet de nous décaler, de sortir du réel. Moi, Edmond Husserl, c'est un homme que j'aime beaucoup, qui est très dur à lire, mais en même temps, il n'y a pas d'auteur autre que lui qui a réussi à m'emmener dans un autre monde. Enfin, ces grands auteurs, ces concepts, je trouve que oui, ils ont aussi la capacité de vous emmener, quoi, de vous ouvrir un autre univers. Et pas aucun problème avec les concepts ici, on adore ça. Et on adore, c'est pour ça qu'on met les photos de ces auteurs-là. Il y a un vrai amour des auteurs. Mais après, je crois qu'on arrive à une certaine maturité qui fait qu'on a peut-être nourri de tout ça, on a la maturité d'aller dans la pratique maintenant, je pense. Et de plus en plus, on parle de pratique de soins poétiques, on propose des expérimentations donc dans les méditations du vendredi ou dans les cercles poétiques de soins qu'on fait une fois par saison dans la forêt, dans une forêt près d'ici. Et aussi, je pense que ça va être le thème de ton propos, au-delà de ces moments hors les murs, il y a toute cette pratique dans les murs du travail poétique dans une relation thérapeutique classique, du travail poétique dans une relation de médecin généraliste classique. Et qu'est-ce que ça veut dire de travailler poétiquement et en quoi la poésie, le rapport aux soins et à la poésie qu'on travaille ici, en quoi ça peut déboucher sur des pratiques de soins. Voilà, Lia, je te laisse la parole. Ouais.
Moi, comme je disais, je suis thérapeute. Et donc ce soir, mon intervention, elle va être peut-être un peu différente de mes précédentes interventions. Dans le sens où je vais vraiment m'appuyer sur... je me suis posé la question, quel était le ou les thèmes vraiment récurrents, très concrètement, que les gens m'amenaient, en fait, quand ils venaient me voir. Et je me suis rendu compte, j'en ai repéré 3-4 vraiment qui concernent quasiment, si on les regroupe, la totalité de mes patients. Et j'en ai sélectionné un. Vous allez voir, je vais en parler. Mais en le faisant, je me suis rendu compte que c'est finalement, j'avais beaucoup parlé beaucoup théorisé les choses, mais j'avais peu parlé de ces thématiques, du travail concret en fait que je pouvais faire ici. Alors, ça va encore être un peu théorique quand même, vous me connaissez. Voilà, donc c'est vraiment des suggestions, c'est des propositions évidemment, donc je reste ouverte à toutes les objections. Donc voilà, c'est vraiment à partir de ce constat en fait que j'ai décidé de développer un petit peu ce fil. Donc voilà, je vais parler à peu près une heure. Si vous avez besoin de m'interrompre ou quoi, n'hésitez pas évidemment. Donc déjà, mon introduction, déjà ça va être vraiment pour revenir quand même sur ces deux termes que sont la poésie et la phénoménologie. Donc la phénoménologie poétique, comme on pourrait dire, juste pour poser une petite base, on va dire, une base honnête de compréhension, même si évidemment ce sera, je suis obligée de passer par des raccourcis énormes, vous en doutez bien. Donc poésie et phénoménologie, on peut dire que ces deux termes deux états plutôt d'être ou de qui sont quand même très liés, dans le sens où en fait dans les deux cas on va chercher à établir un rapport un peu d'immédiateté au monde. Donc en fait l'idée dans l'un ou dans l'autre ça va être vraiment d'essayer de se retrouver au plus près d'un lieu un peu de surgissement, comme ça, d'apparition un peu originaire. Je vais donner juste brièvement la définition que donne Bruno Pinchard, hein, qui est un prof de philo à Lyon 3, de la phénoménologie. Lui, il dit il s'agit de voir un objet sans aucun a priori pour lui donner le plus de possibilités sur le regard qu'on pose sur lui, ouvrir les variations qu'il habite.
Tu peux redire ?
Oui, il s'agit de voir un objet sans aucun a priori pour lui donner le plus de possibilités sur le regard qu'on pose sur lui, ouvrir les variations qu'il habite. Voilà, donc vous voyez que là on est vraiment dans l'apparition pure de voilà, qu'est-ce qui vient à notre conscience sans présupposer. Vous voyez que toutes les pensées un petit peu préconçues, elles sont de fait un petit peu expulsées. Et donc, bah, évidemment, la correspondance avec la poésie, bon, elle me paraît assez évidente, même si en vérité, elle ne l'est pas du tout. Mais parce que la poésie, ça va impliquer aussi cette capacité à être dans la soudaineté, d'être saisie par cette soudaineté et aussi de se placer dans une forme, on va dire, d'absence d'évolution linéaire, comme dirait notre ami Bachelard, qui lui dit « l'image poétique n'a pas de passé proche le long duquel on pourrait suivre sa préparation et son avènement. » Voilà. Donc c'est là, voilà, j'essaie de faire un lien un petit peu bricolé, un peu rapide entre les deux, mais voilà. Donc on va dire que la poésie, je précise quand même pour ceux qui sont jamais venus, quand tu parles de poésie ici, c'est pas forcément tout le temps de la poésie versifiée. C'est pas que des poèmes en fait, on va dire c'est un état d'être dans le monde, c'est tout le rapport qu'on va créer avec les choses, c'est comment on se met en lien en fait, dans un lien sensible, mais évidemment que ça regroupe voilà, toutes les formes d'art possibles et qu'on est très très inspiré par les poètes, les auteurs. Mais voilà, je parle pas que de la poésie versifiée à ce moment-là. Dans cette approche, on pourrait dire presque que voilà, il n'y a pas de passé, il y a un surgissement, il y a quelque chose de l'ordre un petit peu de l'événement pur. Donc on n'est plus ici justement, tu parlais de concept, dans un monde qui va être gouverné par la raison, voilà, qui va être forcément producteur de formes logiques. On est quelque part comme éclairé dans cette démarche de l'intérieur par l'intuition que quelque chose apparaît à notre conscience et se révèle à nous dans l'instant, comme une fulgurance qui est très habitée, mais quelque part toujours aussi un peu transitoire. Ça va ?
Ouais. Mmh.
Donc ça peut être des apparitions extérieures, par exemple, ah je regarde un magnifique coucher de soleil, j'ai une image en fait qui va rentrer comme par effraction dans mes yeux et que je vais intérioriser, intégrer en moi dans ma conscience et qui va me révéler aussi une portion du monde qui m'était peut-être inconnue à ce moment-là, ou une apparition intérieure, et là c'est quand même plus ça que je vais un petit peu travailler, mais bon, on va voir que tout est lié, c'est-à-dire en fait comment je peux me réapparaître moi-même à ma propre conscience. Est-ce que je me donne la possibilité de cette liberté-là aussi, d'être toujours nouveau à mes propres yeux ? Voilà. Donc voilà, moi j'aime bien dire que la phénoménologie poétique va nous inviter à nous considérer comme un infini indéterminé. Donc si on se place dans cette optique, le travail du thérapeute, donc mon travail en l'occurrence, donc moi je fais une thérapie, on va dire, surtout axée sur la parole, parfois un petit peu par des pratiques psychocorporelles, mais ça passe quand même beaucoup par la rencontre, le lien, la parole. Donc c'est avant tout un travail de déconstruction, finalement. C'est-à-dire on va abandonner des présupposés, en tout cas essayer, parce qu'évidemment que c'est la tâche peut-être la plus dure pour un thérapeute, pour entrer dans un nouveau mode de perception de l'être. Hein. Vous voyez, quand moi j'ai des patients qui arrivaient avec des muscles comme ça, des tatouages comme ça, c'était très dur de pas avoir une représentation. Je me dis, ouf, comment ça va se passer quoi. Puis après, on voyait l'intelligence qu'il y avait derrière, enfin, et le sensible, c'était extraordinaire. Mais le premier rapport, évidemment, on est quand même, comment dire, on a nos propres références intérieures, donc on est toujours touchée d'une certaine manière, quoi, par l'apparition de quelqu'un, son apparence, etc. Est-ce qu'on peut en déduire ? Voilà, donc en fait, pour moi, c'est vraiment qu'à cette condition, en tout cas, c'est une des conditions essentielles, on va dire, pour qu'une rencontre puisse avoir lieu, c'est vraiment quand on va commencer à se débarrasser un peu de ces représentations mentales qui ont une fonction statique. Ça, on va vraiment figer quelque chose dès qu'on est dans des représentations comme ça. Ça fige l'autre, en fait, dans une image donnée, une projection, en fait. Et on peut le faire, évidemment, là je parle du thérapeute, mais on peut très bien faire ça avec nous-mêmes. On se fige nous-mêmes dans une image, dans une projection, hein. Combien de représentation très rigide on a de nous-mêmes, hein, ne serait-ce que quand on dit je suis quelque chose, bon, on est déjà en train d'essentialiser quelque chose et de s'identifier à une donnée fixe. Voilà, et puis d'ailleurs, dès qu'on est dans ces projections-là, on se rend compte que ça produit une sorte d'exigence qui reste toujours extrêmement insatisfaite, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'autre se laisse rarement attraper, en fait, c'est-à-dire qu'il va se débattre, hein, au plus on va essayer de l'enfermer quelque part, et au plus ça va se débattre dans tous les sens. Donc voilà, c'est difficile quand on essaie de coincer quelqu'un de cette façon, en général, il va y avoir des tentatives d'échapper. Donc c'est là où on n'écoute plus que partiellement, on ne regarde plus que partiellement. Donc je vous ai mis, pour illustrer ça, j'ai trouvé un texte de Brassens qui s'appelle « Tu ne m'écoutes pas ». Alors c'est une interview, en fait, de Brassens avec un journaliste que j'ai un petit peu tronqué. Mais vous allez voir, voilà, je trouve ça assez intéressant. Donc vous avez normalement le texte sous les yeux. Brassens, donc il commence par dire, voilà, il parle de l'écriture de chansons, etc. Et il dit, tu sais, à force de réciter des poèmes en classe et d'écouter des chansons, on voit à peu près comment ça se fabrique. Et là, André Sève, qui est le journaliste, lui dit, mais tu as travaillé la versification ? Il lui répond, la plupart de ceux qui écrivent des chansons n'ont pas étudié la versification, etc. Après, il développe. Toi, tu les as apprises ? Oui, plus tard, parce que je raffinais un peu, mais tu en as conservé de tes premières chansons ? Non. On peut dire des chansons, on peut écrire des chansons sans. Tu ne m'écoutes pas ? Non, c'est parce que tu suis ta pensée. Je sens ça. Tu viens ici avec des idées préconçues et tu veux toujours suivre ton chemin, pas le mien. Quand j'avance quelque part sur une idée, il faut me laisser partir et tu m'arrêtes. Là, j'aurais pu dire les choses mieux. Mais il faut le temps pour que ça vienne. André Sève, on y reviendra. Il ne faut même pas dire qu'on y reviendra. Il faut qu'on continue de parler, sans que tu t'occupes des questions que tu as fabriquées ou que toi, tu veux suivre. Veux-tu Brassens ou veux-tu fabriquer Brassens ? Si tu suis ton idée, tu perds ce que moi, en suivant ce qui me venait, j'allais te dire. Les spécialistes n'ont pas su m'ouvrir à tes musiques, ni même tellement à tes textes. Parce que toi, tu ne t'ouvres que si tu veux. Depuis que tu me questionnes, je le vois bien. Quand je t'explique quelque chose qui ne coïncide pas avec ce que tu voulais que je te dise, tu détournes la conversation. Moi maintenant, après 3 jours d'écoute. D'écoute, si on veut. Non, tu attends. Et quand ça coïncide avec ce que tu attends, pof, ça fait tilt. Tu me regardes d'une façon vivante, tu es ouvert. Mais quand ça ne coïncide pas, je vois ton visage sans vie. Je te surveille, tu sais. J'en apprends beaucoup sur toi en observant ton comportement d'intervieweur. Tu arrives ici avec un Brassens entièrement préfabriqué dans ta petite tête et tu veux me faire rentrer là-dedans. La seule chose qui t'intéresse, c'est de me faire dire ce que, d'après toi, Brassens doit dire, ce que Brassens doit être. Tu pourrais avoir le vrai Brassens, et en tout cas un Brassens inattendu. Mais tu t'es préparé au Brassens que tu veux. On attend toujours les êtres comme on les veut. On n'est pas pris à la surprise. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est dès qu'on entre dans un conflit de représentation, dans une pensée abstraite, en fait, où s'insinue la puissance d'une image comme ça préfabriquée, c'est fini. Hein. Dans le fond, on perd l'autre à la seconde, puis on perd, c'est pas seulement l'autre, c'est la possibilité d'une rencontre aussi. Donc la démarche poétique, c'est vraiment, pour moi, en tout cas, une entreprise qui est plus vaste, en fait, de reconstruction des liens. C'est comme si, moi ça me fait souvent cet effet où elle va augmenter la surface de contact en fait avec l'autre, avec le monde et avec soi-même aussi bien évidemment. Donc elle peut faire naître à la présence de l'autre et nous faire naître à notre propre présence car elle s'impose en toute rencontre comme ce qui s'affirme sans réserve dans l'avènement du présent. Pour moi, en tout cas, c'est un des endroits où on peut vraiment se rejoindre au plus intime en restant ouverte à la possibilité de l'autre et de l'autre, pas comme on le voudrait, mais de l'autre en tant qu'autre. Comme je vous ai dit, je me suis posé la question de qu'est-ce qui revenait le plus ici dans mon cabinet. Et il y avait cette question des gens qui n'étaient pas bien dans leur environnement. Donc ça, c'est vraiment un des thèmes récurrents auxquels je suis quasiment le plus confrontée, c'est une inadéquation de l'individu avec son environnement. Donc qu'il s'agisse d'un environnement affectif, comme le couple, la famille ou autre, ou d'un environnement professionnel. C'est celui-là plutôt qui va m'intéresser aujourd'hui. Donc voilà, des gens qui sont très mal et on sous-estime souvent, j'ai l'impression, l'impact juste catastrophique que ça peut avoir sur la vie, parce qu'évidemment de la personne avec sa qualité de vie, parce que notre environnement a une influence quand même vivace sur nous. Et quand il est adapté, c'est juste à mon sens, c'est une grave entorse aux lois naturelles de la vie. C'est comme une plante, vous voyez, vous mettez une plante, si le pot est trop petit pour elle, elle va rester rabougrie. Et puis ses racines après, vous voyez, elles vont passer par-dessous le pot, elles vont essayer de percer, de déborder, voilà. Quand on est vraiment dans un environnement inadapté, on va vraiment mobiliser toute une partie de notre énergie pour nous adapter, nous suradapter à un milieu qui va nous dévitaliser complètement. Et en fait, on va vivre dans cette dangereuse familiarité avec des habitudes qui permettent juste pas notre épanouissement, voilà. Et qui finissent du coup par devenir une espèce de camisole mentale au final. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai toujours constaté. C'est une manœuvre souvent qui est assez stérile et relativement épuisante. Mais le problème, c'est que souvent les gens ils peuvent rester des années dans un environnement qui est toxique pour eux et ils ne bougent pas, c'est terrible. C'est comme s'ils ne voyaient pas d'issue positive. Et à ce moment-là, moi j'ai envie, je leur dis souvent, mais voilà, on est des mouches quoi. C'est-à-dire, on va, vous savez, les mouches qui tapent indéfiniment sur le même carreau, vous voyez, pour sortir, ça tape, et en fait, ils voient pas, les mouches ne voient pas qu'il y a une issue, une fenêtre ouverte juste à côté. Donc on devient des mouches à ce moment-là. En tout cas, c'est dommage.
C'est une belle image,
hein, voilà. C'est... Oui, voilà, c'est très métaphorisé.
Ça va rester.
Donc voilà, donc parfois, ce cadre qu'on s'impose, ça va devenir pour nous une limite qui est quelque part contenante et rassurante aussi. Hein. Moi, j'ai pour habitude de dire que c'est un confort désastreux. Et donc, on va choisir un peu de stagner dans le connu, quoi, on va dire ça. Mais dans tous les cas, ce que j'ai toujours constaté, en tout cas dans mon travail, peut-être vous avez des contre-exemples, mais c'est que c'est une situation qui va vraiment finir par rendre les gens malades au bout d'un moment. Et le problème souvent, c'est que les gens sont tentés de traiter leur angoisse, voire même sont convaincus qu'ils ont un problème vraiment psychique, très sérieux. Donc ils traitent le symptôme de l'angoisse plutôt que la source de cette angoisse. Donc souvent évidemment, ce que je constate quand même toujours un petit peu, c'est qu'au fond la personne elle a la réponse, elle sait très bien qu'elle doit partir, elle le sait, mais bon voilà, il y a plein de peurs que je ne vais pas détailler ici parce que je ne suis pas là pour ça, mais voilà, peur de se tromper, peur d'un écroulement ou d'un flottement interminable dans le vide, peur de décevoir les attentes des autres, etc. Enfin je pourrais faire une liste, la liste est très longue. Juste cette petite phrase de Baudelaire quand même qui est resté dans mon cerveau depuis 15 ans, depuis que j'ai dû commencer mes études. Lui disait qu'il y avait un droit qui avait été oublié en fait dans la constitution des droits de l'homme. C'était d'ailleurs, non, il disait qu'il y en avait deux. Il disait c'est le droit de se contredire et le droit de partir. Voilà. Quand on est pris effectivement dans ses peurs, paralysie décisionnelle en général. Et la personne n'arrive plus à impulser le mouvement dont elle aurait besoin. Donc là, il s'agit vraiment pour elle d'aller reconquérir un peu de terrain, ne serait-ce que de croire en la possibilité qu'elle puisse se réinventer et de restaurer sa souveraineté. Mais encore faut-il accepter de laisser un vide en fait à disposition et de faire ce souvent inconnu qui est à la fois effrayant, mais sans doute un peu salutaire, et de pouvoir tout simplement imaginer qu'on peut goûter autrement aussi son existence. Et là, je vous demande, est-ce que finalement les plus belles choses n'arrivent pas par accident aussi quand on se lance dans l'inconnu, dans l'imprévisible, etc. Bon, c'est vraiment juste une question. Juste une parenthèse, mais parmi tous les patients, ils sont extrêmement nombreux vraiment, que j'ai eus et qui ont quitté leur travail. Alors oui, j'ai la réputation de rendre les gens pauvres, c'est vrai. Parmi tous ces gens-là, il n'y en a aucun, je crois, ne pas avoir une seule personne qui m'ait dit « j'ai regretté, je suis partie, j'ai... » Voilà. Quelqu'un qui allait jusqu'au bout de sa démarche, j'ai jamais entendu ça, donc ça m'a marqué aussi à quel point, en fait, même si c'est compliqué, même si les gens se retrouvent dans le vide, un peu en insécurité matérielle et tout, ils arrivent toujours à rebondir à un moment donné, à refaire un projet, voilà, il y a toujours quelque chose qui vient, quoi. Donc voilà, donc une fois posée un petit peu cette nécessité de quitter un lieu, un emploi, un projet, tout ça, bah souvent il y a une sorte de crise de sens hein, qui peut survenir. Et là, il y a une question pareil récurrente, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi.
C'est surtout après le Covid.
je bossais avant, oui, alors c'est vrai que ça a accentué effectivement, mais oui. Mais c'était là, enfin voilà, depuis vraiment ça, je vois cette question, ces problématiques... vraiment tout le temps. Donc qu'est-ce que je vais faire de ma vie, voilà. Donc ça, souvent, c'est une question d'autant plus anxiogène qu'elle va être posée dans l'urgence, dans l'attente précipitée d'une réponse. Et souvent, les gens réagissent comme si c'était en fait une sorte de défectuosité personnelle de pas savoir, quoi, tout de suite. Comme si cette réponse, elle était innée, inhérente, et qu'il fallait avoir une sorte de préconnaissance, en fait, de ce qui nous anime de plus fondamental. Et souvent, dans cet empressement en fait, à trouver un objectif à tout prix, il pose le faire avant l'être, la destination avant le chemin, quoi. On peut dire ça comme ça. Ce qui renforce évidemment leur difficulté à se repositionner dans une vie qui leur conviendrait mieux. Donc, on peut dire que quand elle n'est pas soutenue par une intention claire, la question du faire, à ce moment-là, ça devient une question de performance et de reconnaissance le plus souvent. À mon sens, encore une fois, c'est très subjectif ce que je dis. Donc, à mon avis, voilà, j'ai pour habitude de dire c'est une mauvaise question, quoi. Voilà, enfin, c'est une question qui va conduire vers des fausses pistes. Et à un moment donné, alors je pose la question, est-ce qu'on peut aussi prendre le risque d'être quelque part un imposteur, c'est-à-dire de trahir les valeurs sociales, morales, familiales qui nous ont été inculquées et d'aller assumer pleinement notre singularité, notre étrangeté. Là, j'ai une phrase de... avant cette phrase, j'aimerais juste vous raconter juste ce que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. C'est toujours Baudelaire dans une lettre à sa mère qui parlait de son recueil à la sortie des Fleurs du Mal, hein, qui a été pas toujours très bien accueilli. Et lui, il disait... pour lui, évidemment, l'art devait poursuivre un but complètement étranger à la morale. Et il disait que la preuve de sa valeur positive à son recueil... Et dans tout le mal qu'on en dit. Voilà. Donc notre cher Baudelaire. Et donc là, je vous ai marqué donc dans la deuxième feuille. C'est une petite citation juste comme ça de Jacques Maritain qui lui dit « L'intuition poétique vise l'existence concrète en tant que co-naturel à l'âme transpercée par une émotion donnée. C'est-à-dire qu'elle vise toujours un existant singulier. Une réalité individuelle concrète et complexe prise dans la violence de sa soudaine affirmation de soi et dans la totale unicité de son passage dans le temps. » Donc singularité.
C'est une éruption poétique.
Voilà, exactement. C'est une apparition. Bonjour. Donc vous voyez, ce qu'il dit, c'est singularité, donc unicité, mais aussi une sorte de brièveté, voilà, dans ce qui nous traverse. Alors c'était un philosophe, mais chrétien, voilà. Ouais, c'est ça.
Voilà, mystique.
Très mystique.
Ça semble.
Voilà, il était très mystique. Mais bon, moi-même, je peux utiliser les paroles d'un philosophe. désolée pour toi, Denis, tu as un peu raccroché les wagons en cours de route. Tu pourras peut-être écouter le début après. Donc à la question, bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, s'ajoute quasiment immédiatement la question de, en fait, il faut que je trouve qui je suis. Vous voyez ? Donc ça, c'est une question que j'entends voilà, tout le temps pour trouver pour, voilà, pourquoi je suis fait, il faut que je trouve qui je suis. C'est aussi beaucoup une... Vous savez, trouver sa voix, trouver qui on est, c'est aussi beaucoup de choses qu'on va entendre dans les milieux un peu, on va dire, un peu alternatifs, un peu... voilà, enfin moi j'ai beaucoup entendu ça en tout cas. Mais à mon sens, c'est une deuxième mauvaise question. voilà, parce que déjà, elle amène beaucoup plus de tensions qu'elle n'en résout. Voilà, donc si on reprend le point de vue de la phénoménologie et qu'on part du principe qu'on est un peu un assemblage de fragments prélevés à un instant donné, on doit dire d'unités un peu isolables comme ça, et qu'on ne peut pas accéder quelque part à une sorte de substrat fondamental qui définirait la totalité de ce que nous sommes. Donc moi, j'avais eu pas une révélation, mais une image qui m'était venue lors d'une méditation sur le ciel. Je regardais le soleil, je me disais, mais c'est bizarre, voilà, il est là, et puis en même temps, on ne peut pas le regarder, il nous aveugle. Voilà, il est c'est un astre un peu invisible, quoi, parce qu'on le regarde très rarement en face comme ça, mais par contre, il vient révéler le monde. Et je me suis dit, bah ouais, pour moi, l'essence, ce serait un petit peu comme si elle existe, ce serait un petit peu quelque chose comme ça, comme le soleil. C'est-à-dire à la fois un astre invisible et éblouissant, inapprochable quelque part, mais qui vient nous révéler le monde à travers son rayonnement. Voilà, c'est un petit peu ce que je m'étais dit à ce moment-là. Donc là, je vais vous mettre une petite citation de Bloch, qui est un philosophe que je commence à découvrir. Voilà, donc vous l'avez, normalement. Donc lui, il dit, on comprend ainsi que même dire « nous sommes des hommes », c'est n'exposer qu'une forme inauthentique qu'il faut tenir pour assez provisoire. Nous n'avons aucun organe pour appréhender le moi et le nous. Au contraire, nous nous mettons nous-mêmes dans la tâche aveugle, dans l'obscur de l'instant vécu, dont l'obscurité est en dernier ressort notre propre obscurité, notre être inconnu, notre être masqué, introuvable. Tout ce qui s'y trouve dilué provient de l'état présent du sujet, en tant que fonction de présence encore dispersée, sans unité ni centre, bien que n'abdiquant jamais. Voilà. Ouais, Bloch. Bon, voilà. Non mais on est... on a découvert depuis pas longtemps, puis on est un petit peu émerveillé. J'avoue qu'on est un peu... Voilà. Donc, la réponse la plus intéressante que j'ai entendue à cette réponse du « qui je suis », et je crois d'ailleurs, je ne suis pas sûre, mais je crois qu'elle vient de Moïse. Je crois que c'est dû à un moment dans la Bible qui lui demande qui es-tu et il répond, en fait, je suis ce que je suis. Et sous-entendu, en fait, je suis ce que je suis en train d'être à chaque instant. Voilà. Donc le risque, voilà, donc là on va entrer un petit peu dans le plus dur, mais le risque, à mon sens, hein, toujours, je précise, c'est très subjectif ce que je vous dis, bien évidemment, de vouloir résoudre cette enquête du qui je suis et de se définir de telle ou telle manière, ça va être du coup après voilà, de se réduire à une seule version de nous et de venir rigidifier quelque chose en nous et du coup bah, de commencer à produire toutes sortes de discours intérieurs, comme on disait tout à l'heure, qui vont venir justifier cette image qu'on a de nous, quoi. C'est qu'on va venir consolider ce qu'on voudrait être, ce qu'on pense être, etc. Là, il y a un risque quand même, à mon sens, que voilà, je l'ai vu aussi beaucoup, c'est d'entrer à un moment donné dans un mode un peu caricatural, sans nuance, et souvent marqué par une forme d'impureté à l'endroit de tout ce qui va déranger et déstabiliser cette identification. Vous voyez, je vais vous donner un exemple concret. Donc voilà, quelqu'un qui ne supportait pas, qui se voyait comme quelqu'un d'extrêmement poli. Et qui ne supportait pas la grossièreté, les gros mots, tout ça, vraiment, ça lui était insupportable. Et donc, il rejetait vraiment la... Moi, je me suis dit, à un moment donné, cet homme-là rejette la part de lui qui peut tout simplement dire merde, quoi. Et en fait, je lui ai donné un petit exercice de dire merde, comme ça, régulièrement, quotidiennement, pendant au moins 3 semaines, jusqu'à notre prochaine séance. Voilà. Et il l'a fait. Alors, je ne savais pas, quand on donne un exercice, voilà, on ne sait jamais si la personne va le faire ou pas. Et là, il s'est mis à dire merde, mais il m'a dit, mais au départ, je le disais une fois par jour, comme ça me coûtait. Mais après, je me suis mis à lire 2, 3, 4, 5 fois. Puis à la fin, je disais que merde. Puis à la fin, il me disait, dis merde, c'est trop bon quoi de pouvoir dire merde. Tu vois, donc ça c'est une petite anecdote, vous voyez, par rapport à cette identification. Et il y a une autre question. Oui, bah oui. Mais voilà, il y a une quête de pureté assez féroce quoi, à cet endroit-là aussi. Ah oui, je vais quand même citer Anne Tibran quand même, une phrase que j'ai entendue d'elle quand elle dit que ce qui est évoqué est invoqué. C'est-à-dire que quand on fait vivre le mot, le verbe, que ce soit à l'extérieur comme ça ou en nous-mêmes, parce que souvent c'est la question c'est qu'est-ce qu'on se raconte à soi-même, hein, quelle est la qualité de notre propre discours intérieur, quelles sont les histoires qu'on se raconte, c'est comme si on invoquait quelque chose, c'est-à-dire on le faisait exister, on lui donnait une place en fait, tout simplement. À ce moment-là, on lui donnait une place.
La phrase c'est évoquer, c'est invoquer.
Ce qui est évoqué est invoqué. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, vous inquiétez pas, c'est Anne Cibran qui est intervenue ici déjà plusieurs fois. Vous inquiétez pas, j'ai presque fait. Donc, la tentation de résoudre cette énigme du qui je suis, déjà ça va pour tout le monde là,
ouais, c'est bien.
Aussi.
Okay. Mmh,
c'est aussi celle au fond, bien sûr, de trouver un point d'ancrage en fait stable dans une réalité qui est mouvante et qui ne se laisse jamais entièrement attraper. Donc moi je me pose la question, est-ce qu'il ne serait pas préférable de laisser aussi cette question de côté, tout simplement, et d'entrer dans ce qu'on pourrait appeler une poétique de l'inachevé, c'est-à-dire pouvoir être satisfait au fond avec notre incomplétude, avec nos failles, avec aussi nos boitillements, nos bégaiements, nos tâtonnements hasardeux, et tout ce qui en nous finalement reste très bancal, friable et inexplicable. Pourquoi est-ce qu'on essaie toujours de déjouer le mystère plutôt que de le cultiver et de maîtriser quelque part le vivant plutôt que d'en libérer les forces créatrices? Donc peut-être que ce qui rend les choses aussi difficiles quelque part est qu'on est dans le refus de l'opacité, que nous refusons de vivre dans la discontinuité, dans l'ébranlement perpétuel. Et c'est vrai que c'est une tâche extrêmement dure, ardue. D'accepter que tout ce qui nous est donné comme réel, comme vrai, comme durable, quelque part peut s'écrouler à tout moment. C'est même ce qu'on pourrait appeler une catastrophe existentielle. Et là, je vous renvoie quand même à Yves Bonnefoy qui parlait beaucoup de ça, c'est-à-dire l'échafaudage des pensées, des concepts et tout ça. Tout ce qui nous est donné comme réel à un moment va... Alors lui dit, je crois qu'il disait, c'est quasiment sûr, ça va s'effondrer. Et pour lui, c'est à partir de ce moment-là que la rencontre poétique peut avoir lieu vraiment avec un autre être qui est comme nous dans ce dénuement quelque part. Et justement, donc, c'est une tâche extrêmement ardue, mais est-ce que c'est pas aussi une sorte de c'est pas aussi l'instant béni où un nouveau bonheur, on va dire, en tout cas de nouvelles possibilités peut advenir. C'est comme si on pouvait à ce moment-là aussi se libérer d'une certaine pression d'être comme un peu accompli, comme si on devait attendre d'être parfaitement formé, défini pour commencer à nous réaliser dans notre être, vous voyez, avoir même parfois une valeur à nos propres yeux. Donc comme s'il fallait aussi se délester de nos poids, de nos attentes, de nos paradoxes pour toucher une sorte de noyau pur et à ce moment-là je serais libre, vous voyez. C'est un petit peu ça moi que je perçois. D'abord on va déblayer, après on va toucher le noyau et après ça va être l'épiphanie totale. Voilà, donc Bobin quand même, je pouvais pas vous faire une intervention sans mettre Bobin, lui disait la claire conscience de la vie amené par la calme pensée de sa fragilité et la grâce même. Quelque chose de fugace, d'infime, qui ne demande surtout pas à être retenu et qui coïncide avec l'incorruptible joie d'être vivant. Personnellement, ce que m'a permis de comprendre la poésie à ce niveau-là, et ce que je dis assez souvent à mes patients, c'est n'attendez pas d'être prêt pour commencer à vivre. N'attendez pas, ne retardez rien. N'attendez pas d'avoir tout résolu, qu'il y ait des bonnes conditions de réalisation. Faites aussi avec vos lacunes, avec vos hésitations, vos flottements, vos révoltes et même un peu vos douleurs. Voilà, n'attendez pas d'avoir lissé toutes les parois de votre existence, d'avoir tout dépoussiéré, d'avoir construit un univers un peu aseptisé comme ça pour commencer à espérer une liberté possible. C'est peut-être là pour moi que se situe la plus grande illusion et peut-être, je vais être sévère, attention, la plus grande illusion thérapeutique, c'est que quelque part, voilà, tout pourrait, beaucoup de choses en tout cas, être défroissé, être aplanie et que c'est à ce moment-là qu'une forme supérieure, un peu de l'être ou de bien-être ou autre, voilà, pourra émerger et qu'on trouvera ce qui peut se rapprocher quelque part de notre moi réel. Ça va pour tout le monde ? Ouais. Donc il me semble, moi, que la poésie, justement, elle prend en charge un peu tous ces aspects de l'être. Moi, j'aime bien dire que c'est une entreprise totalisante, mais souvent, c'est que je précise pas trop de quoi il s'agit. C'est-à-dire elle va prendre en charge toutes ces visions qui se chevauchent, qui se superposent, qui se contredisent aussi beaucoup hein, et qui coexistent dans cette contradiction-là. Donc elle permet quelque part une intégration brute de ce que l'on est. C'est-à-dire, en fait, l'être advient dans sa multitude foisonnante, à mon sens. Donc ça veut dire aussi qu'à tout moment, il va pouvoir se remettre à neuf et se réinventer et pouvoir se surprendre toujours. Donc l'une des intentions du travail thérapeutique, notamment psychanalytique, si vous me pardonnez d'avance ce raccourci que je vais faire, c'est notamment voilà, de venir éclairer un peu des zones d'ombre, montrer le détail, on va dire un peu décortiquer, élucider notre esprit, résoudre les conflits intérieurs, etc. Comme si on nous invitait, enfin bon, en tout cas c'est un petit peu l'effet que ça m'a toujours fait, à venir gratter un petit peu l'inconscient pour en retirer les impuretés. Mais évidemment que c'est un raccourci, on est bien d'accord. Et c'est comme si la poésie, elle n'était pas là pour amener un éclairage en fait sur la compréhension. C'est comme si elle permettait de faire exister les choses qui restent non éclairées par l'analyse, par le calcul, par le découpage de la conscience. C'est comme si elle laissait, elle pouvait laisser telles quelles ces zones de pénombre et les porter dans la lumière, mais dans leur nuit, vous voyez ? C'est-à-dire qu'elle va donner à un moment donné une forme à ces ombres, une sonorité, une couleur quelque part, mais sans jamais rien, vraiment à l'état brut, quoi, vous voyez ? Et je me demande si c'est pas là voilà, que l'être apparaît effectivement, finalement, dans sa plus grande clarté, car il a conservé intact son mystère. Il y a deux anecdotes, donc une qui reste à vérifier. Il y a Marguerite Duras, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Elle connaissait un peu Lacan, enfin, en tout cas elle a eu un lien avec lui. Et Lacan lui disait, mais en fait, il ne faut pas qu'elle comprenne ce qu'elle écrit quand elle l'écrit, quoi. Sinon elle deviendrait folle. Voilà. Et elle-même, je crois qu'elle avait demandé à entamer une analyse avec un psychanalyste et le psychanalyste l'a renvoyé à son écriture, tout simplement.
C'est-à-dire qu'il a...
Il a pas forcément voulu la... Enfin, il lui a dit, mais en fait, là, non, enfin, juste écrivez. Voilà, écrivez, laissez ses formes apparaître, laissez tout ça à l'état d'apparition. Donc voilà, après, c'était peut-être un cas désespéré aussi, mais je pense pas.
Donc voilà. Pas pour la littérature.
Et elle, juste, elle dit un truc que j'aime bien. Est-ce que je l'ai noté ? Oui, voilà, elle dit juste cette petite phrase que j'ai notée. Elle dit, le cinéma que je le fais au même endroit que mes livres. C'est ce que j'appelle l'endroit de la passion, là où on est sourd et aveugle. J'essaie d'être là le plus qu'il est possible. Voilà. Et une autre anecdote à vérifier aussi, c'est sur Mahler, c'est un compositeur contemporain de Freud. Comment ? Voilà, exactement. Et qui, après, bon, il avait rencontré Freud une fois, mais pour d'autres raisons, mais du coup, après la mort d'une de ses, de sa fille aînée, je crois, il avait demandé en fait à suivre une psychanalyse ou autre avec Freud et lui il avait refusé tout simplement, il l'avait juste renvoyé à sa musique, c'est-à-dire faites de la musique, composez, etc. Et donc là je vais juste vous lire, donc ça vous l'avez aussi normalement, ce tout petit extrait de Bonne Foi. Ça va, je suis pas trop nue.
Non, pas du tout.
Donc, lui il dit je dédie ce livre à l'improbable, c'est-à-dire à tout ce qui est, à un esprit qui veille, aux théologies négatives, à une poésie désirée, de pluie, d'attente et de vent. À un grand réalisme, qui aggrave au lieu de résoudre, qui désigne l'obscur, qui tienne les clartés pour nuées toujours déchirables, qui est souci d'une haute et impraticable clarté. Voilà. Donc, ma dernière partie... C'est ce que j'appelle la connaissance par l'affect. C'est-à-dire, bon, alors voilà, donc j'ai ce patient très mal, son environnement, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Fausse question, enfin, on va dire impasse. Qui je suis ? Impasse. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi ? Il n'y a que des impasses. Donc c'est peut-être... Alors c'est dommage parce que finalement c'est la partie que j'ai presque le moins développée. Mais parce que peut-être que je voulais laisser le champ ouvert aussi à d'autres réponses possibles qu'on pourrait apporter ici. Mais voilà, c'est peut-être une autre région de l'être qu'il faut ouvrir. Une dimension peut-être plus élémentaire finalement, c'est... moi j'aime bien, c'est celle de la joie pour moi. C'est-à-dire trouver ce qui me met en vie à partir de la joie que je ressens. À mon sens, c'est un repère bien plus fiable, bien plus stable que tout le reste. C'est-à-dire, je me demande en fait à un moment donné, qu'est-ce qui me donne de la joie ? Si on pouvait trouver un point d'attraction dans cette vibration de joie qui nous anime, on pourrait peut-être concevoir les choses d'une autre façon, à condition toutefois aussi d'accepter de ne pas trouver ce qu'on cherchait. Donc pour ça, il faut un peu aussi pouvoir effriter nos murailles de certitude et se laisser venir à l'étonnement. Donc pour répondre à cette question, c'est là où ça se corse un peu quand même, c'est qu'encore faut-il résister contre l'écrasement du sensible en nous, à cette difficulté en fait qu'on a souvent de donner notre confiance à ce qui n'est pas prouvable, à ce qui n'est pas démontrable, à simplement traverser une émotion en fait qui échappe à toute logique et à toute cohérence comme celle de la joie tout simplement. Moi, je me souviens que souvent quand je pose cette question, c'est là, qu'est-ce que vous sentez là, quel est votre ressenti, et là il me sort une analyse tata. Donc voilà, c'est ça que j'appelle aussi l'écrasement du sensible en nous, c'est-à-dire qu'on se transforme en solutionneur un petit peu. Donc je vais encore vous donner une petite citation de Bloch, parce que je ne peux pas vous priver de ça. Donc lui, il parlait un peu de l'extase à ce moment-là, et il disait « Aussi sublime donc que soit l'incitation de cet état d'étonnement, de pressentiment, il n'en rencontre pas moins en chemin, non seulement dans son intention inconsciente qui peut se ramener à ce qui n'est simplement plus conscient, mais précisément aussi dans son adéquation, du côté de son objet, quantité de solutions illusoires qui en arrêtent l'élan, qui façonnent sans fin des formes stables, gaspillant et nivelant ainsi l'excédent utopique dans cette existence qui est la nôtre. » J'avoue que il y a presque une petite vénération qui commence à naître. Hein. Voilà,
je on en est pas encore là.
Ouais, je pense aussi. Donc voilà. Donc voilà.
C'est très bon que tu en aies emporté dans l'amour d'un auteur. Ah ouais. Il faut y aller quoi.
Ah ouais, c'est clair, c'est le moment.
Se livrer corps et âme à la relation amoureuse.
C'est clair, exactement. C'est le moment de la passion là. C'est... voilà. Et donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, moi ce que j'ai toujours constaté, c'est que tous les édifices conceptuels menaient toujours à des degrés de complication. Enfin, dans la réponse à cette question en tout cas. De doute, de confusion, et ça va même abîmer le rapport hein, d'amour qu'on a avec nous-mêmes en fait. Et moi ça me donne toujours cette impression que, vous savez, c'est comme quand on cherche, encore une image, à attraper une balle, vous savez, et en fait quand on n'arrive pas à la saisir, en fait on la repousse toujours plus loin, comme ça, vous voyez, on repousse la balle. J'ai toujours cette impression que quand on veut passer par des voies intellectuelles, c'est ça qui se passe en fait. Alors qu'il s'agit juste, à mon sens, de s'autoriser à contacter ce qui est le plus vivant en nous. Trouver l'endroit où on se sent exister intimement, viscéralement. Et c'est pour ça que, à mon sens, on pourrait avoir besoin de revenir à une sorte de simplicité en fait, plus radicale et à nous réconcilier avec notre désordre, ou même, si on ose ce mot, notre folie. C'est ça que j'appelle la connaissance par la fête, quoi. Et vous savez, je vous aime ça parce que c'est juste c'est quelque chose que j'entends souvent. Alors là, je le vois sur Facebook ou ailleurs, enfin... dans plein de thérapies là, de pratiques, c'est on va se libérer de nos émotions. De nos émotions. On ne se libère pas de nos émotions, on va libérer nos émotions et les émotions vont nous libérer. Voilà, à mon sens, c'est plutôt, je sais pas ce que vous en pensez, mais dans ce sens-là que ça se passe. Et juste pour terminer, voilà, souvent je suis très étonnée, honnêtement, des réponses que j'obtiens quand je pose cette question de la joie, quoi. Quand on en revient à quelque chose d'aussi simple, en fait, c'est des choses très basiques hein, qui émergent mais qui conduisent à toutes les métamorphoses, vraiment. Comme, alors, parmi ce qui revient le plus souvent, c'est le lien à l'autre, le soin à l'autre. C'est toujours la contemplation, donc la beauté, quoi, c'est-à-dire une nouvelle aurore, un paysage, quelque chose qui nous émeut, qui nous touche à un moment. Et la nature, beaucoup, évidemment. Et certaines formes de création, voilà, que ce soit peinture, écriture, théâtre, musique, tout ça. C'est vraiment ce qui revient en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, quoi. C'est... Enfin, je connais là. Juste pareil, elle était en dépression, en burn-out, tout ce qu'on veut. Et en fait, elle était asséchée, quoi. Elle trouvait plus de joie. Et elle, en fait, elle a trouvé vraiment de la joie dans le contact avec les plantes. Juste au départ, juste observer, voir, toucher. Et puis après, petit à petit, de plus en plus, de plus en plus, elle a fait grandir cette joie en elle. Parce qu'évidemment, le but, quand on trouve ce qui fait joie en nous, c'est d'augmenter la jauge de cette joie et de diminuer ce qui ne fait pas joie, justement. Et en fait, elle a fini par faire des études de phyto, de naturo, et elle est allée à fond dans les plantes. Elle a quitté son travail, évidemment, et là, elle est...
Encore une que vous avez...
c'est même pas de ma faute, mais c'est vrai que ça aurait pu, très honnêtement, je ne le cache pas.
On ne parle pas des amoureux, on ne parle pas des amoureux, on va devenir fou. Tu n'as pas quitté le travail.
Bah oui, mais après, c'est pas parce que je veux que les gens quittent quelque chose, c'est parce qu'ils sont évidemment mal quelque part dans leur boulot, dans leur relation, voilà. Mais il y a des relations qui se réparent aussi très bien. Voilà. Le travail, d'ailleurs, ça se répare moins que les relations, j'ai remarqué. Donc voilà, donc en fait, ce qui ressort quasiment systématiquement, c'est que c'est la beauté, quelque chose qui a trait à la beauté et ou à la bonté, qui semble ressurgir de façon récurrente. Et procurer le plus de joie globalement. Donc quelque part, il y a quelque chose de l'ordre de la beauté, de la bonté. C'est vraiment une constatation presque statistique que je vous dis. Et donc ce qui viendrait du coup réparer quelque chose de nous, de notre force d'humanité, etc. Et pourtant, ce qu'on constate souvent, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, c'est que c'est cette même capacité à voir le beau et à être bon qui est quelque part le plus facilement englouti par la masse de nos inquiétudes. De tout ce qui nous encombre, voilà, comme c'était quelque part presque parmi les premières choses vouées à disparaître dans le mal qu'on subit, quoi. C'est comme si la souffrance, le mal, tout ça, ça venait à nous couper de cette capacité de bonté ou de beauté. Et donc la poésie, évidemment, bah, nous rappelle, à mon sens, cette nécessité vitale, hein, de revenir à elle. Et c'est vraiment une tâche que, du coup, plus j'entends ces anecdotes, plus je me dis que c'est une tâche, mais absolument infinie, sans fin, de venir protéger cette beauté, cette bonté, car c'est peut-être ce qui est le plus fragile en nous aussi, quelque part, et qui s'abîme le plus rapidement. Voilà, donc j'ai terminé, je voulais juste vous terminer par une petite citation de Blore. Je ne sais même pas vraiment si c'est un lien concret avec ce qu'on vient de dire, mais on termine juste là-dessus, et puis après, voilà. Toujours lui. Nous n'entendons que nous-mêmes, car nous devenons progressivement aveugles au monde extérieur. Quelque forme que nous produisions par ailleurs, de nous, elle refait le tour. Elle n'est pas notre moi exact, sans plus. Elle n'est pas exactement aussi brumeuse, aérienne, chaude, obscure, immatérielle que le sentiment de n'être jamais qu'auprès de soi, de n'être jamais que conscient. Elle est une substance et une expérience aux liens étrangers. Mais nous allons dans la forêt, et notre sensibilité s'émeut. Nous sommes, nous pourrions être ce que rêve la forêt. Entre la colonnade de ses troncs, nous allons, petits, spiritualisés, invisibles à nous-mêmes, nous sommes son champ. Nous sommes ce qui ne pourrait redevenir forêt, jour extérieur, visibilité. L'être, ou le sens de ses mousses, ses fleurs étranges, ses racines, ces troncs et ces raies de lumière qui nous entourent nous échappent, parce que nous le sommes nous-mêmes, et que nous nous tenons trop près de cette expérience fantomatique et si indicible encore qu'est la conscience ou le cheminement intérieur. Magnifique. C'est Blore. Ça s'écrit Bloche, mais ça se prononce Blore, ce qu'il est.
Mais c'est allemand.
C'est allemand. Voilà.
Nous pourrions être ce que rêve la forêt.
Ouais. Donc voilà, ça va, j'ai pas été trop longue.
T'as été, mais franchement, voilà. Je suis impressionnée.
T'as vu?
Non, de la gestion du temps, t'as dit non, c'est 55 minutes.
Pour une fois.
Ouais. Pourquoi il y a du. Ouais. On sent que les métiers rentrent.
Hein. Ouais, c'est ça, j'ai.
T'es pas trop chaud parce qu'on a.
C'est
dans ça va?
Ça va,
c'est dans ça.
Tu pensais toutes les films sur toi?
Ouais,
c'est bon, c'est bien. Vous pouvez venir.
C'est bon, c'est ça.
Bien.